On inspire. On expire. On respire. On souffle.
Carbone zéro.
Une émission pour semer des idées,
planter des projets,
récolter des solutions, afin que le monde et la Terre tournent plus rond. Saint-Vira, le syndicat des vignerons indépendants d'Alsace, vous propose...
Car c'est l'instant de se taire, de lever vers la voûte un verre pansu, puis l'œil d'abord, le nez ensuite, la bouche enfin, béni soit ce... Au fait, comment l'appelez-vous ? Ce velours, cette flamme, ce suc, parfait dans toutes ses proportions, plein d'arrière-pensée ?
On l'appelle vin... Élixir, douceur, plaisir, ivresse, et c'est tout un art. Émission spéciale Carbone Zéro, troisième volet, la vie dans la vigne.
Alors on va faire un jeu, on va écouter tout ce qu'on entend.
D'accord.
Et tu vas compter sur tes doigts le nombre de bruits différents que tu entends et après tu vas essayer de me déterminer ce qu'on a entendu pendant cette minute de silence. Allez, c'est parti. Alors, tu as compté combien de bruits différents, là ? Combien de sons ?
Alors, c'est difficile de compter exactement le nombre de bruits, puisqu'il y a plusieurs types d'oiseaux différents qui sont en train de chanter dans les haies qui sont autour de nous, qu'on entend très très bien. On entend aussi un coucou qui chante un peu plus haut dans la forêt, d'où l'importance de maintenir la forêt également et des arbres un peu plus importants à proximité des vignes, puisqu'ils apportent une diversité dans les animaux qui est différente des petites haies qui entourent les vignes. On a entendu également plus près de nous le bourdonnement d'une abeille et d'une autre mouche plus petite également. Et donc on voit qu'à diverses échelles, les abeilles se promènent dans l'herbe qui sont autour de la vigne. Certains oiseaux préfèrent s'abriter dans les petites haies qui sont autour des vignes. Et d'autres types d'animaux dans les plus grands arbres qui sont dans la forêt autour. Donc là, on voit vraiment l'importance de la diversité du paysage, de la diversité des végétaux qui nous entourent. Dans chaque type d'éléments, il y a des autres animaux qui vont s'y plaire et donc ça va apporter un maximum de diversité.
Alors on va poser le cadre, hein, t'as dit la vigne, donc on est où là ? Décris-nous un petit peu l'endroit dans lequel on se trouve pour donner une dimension visuelle à celui qui nous écoute.
Donc on est sur un joli coteau exposé plein sud, on est dans la partie basse de ce coteau. On a autour de nous des haies qui bordent les vignes, donc le bas de la vigne est au bord de la parcelle également. Et donc on est dans une jolie vigne avec beaucoup d'herbes et beaucoup d'espèces végétales différentes également.
Qu'est-ce que c'est qu'une jolie vigne ?
Alors une jolie vigne, c'est bien sûr subjectif. Pour moi, c'est une vigne qui abrite une belle biodiversité, donc qui est encadrée par les haies, qui accueille entre les pieds de vigne un maximum d'herbes différentes et dont le sol vit, dont le sol respire.
Est-ce que la vigne laisse la place à d'autres espèces ?
Bah, il suffit de voir devant vous, hein, une vigne bien équilibrée. Bah, on est au pied des contreforts des collines sous-vosgiennes des Vosges. Donc on est sur des secteurs un petit peu vallonnés avec la particularité d'avoir les vignobles au pied des coteaux en début de plaine et sur le début de la montagne et les villages juste au pied qui donnent un petit maillage urbain et c'est des villages qui ont eu des développements plutôt raisonnables pour garder un cachet assez particulier et ça donne effectivement une identité assez particulière. Et vous retrouvez dans la partie haute du vignoble ben, les forêts, les gens qui aiment faire des marches, des promenades Il y a plein de choses à découvrir, que ce soit les 250 châteaux juste au-dessus, hein, ou il y a les pistes cyclables dans le bas pour former les jeunes générations à faire le vélo, à s'aérer. Et après, si les gens poussent un petit peu plus, ils peuvent aller commencer à marcher un petit peu dans les vignes et voir la diversité des plantes, de la faune et flore. C'est très régulier de voir, je veux dire, des lapins, des lièvres, des buses, des oiseaux, une diversité quand même assez importante. Et si les gens s'accrochent à regarder un peu le sol, une vigne bien équilibrée, on va trouver au moins 15 plantes différentes au mètre carré.
Donc la biodiversité, on est en plein dedans, hein, c'est la thématique de 2010 de l'ONU, année de la biodiversité. Donc qu'est-ce que tu entends toi par biodiversité ?
Alors biodiversité, c'est la quantité d'espèces différentes qui peuvent vivre. Donc le but, c'est de ne pas être en monoculture, d'avoir uniquement de la vigne qui est vivante dans notre espace, mais également qu'elle soit comprise dans tout un écosystème, aussi bien au niveau végétal qu'au niveau animal, l'un bien sûr entraînant l'autre. Donc le but, c'est d'avoir un maximum d'espèces végétales dans la vigne qui vont attirer, qui vont abriter un maximum d'espèces animales. Donc aussi bien ce qu'on entend, les oiseaux, les mouches, mais aussi ce qu'on entend moins ou qu'on voit moins à l'intérieur de la terre, les vers de terre, toutes les bactéries qui travaillent dans le sol et qui vont travailler pour rendre le sol plus efficace, plus vivant, pour donner un fonctionnement au sol qui va permettre de maintenir la vigne en bonne santé.
Est-ce que c'est quelque chose qu'on cultive, la biodiversité ? Est-ce qu'on cultive la vigne pour faire du raisin ? Est-ce qu'on peut cultiver aussi la biodiversité ?
Alors, je dirais presque que c'est en intervenant le moins possible qu'on arrive à la favoriser. Donc nos interventions à la vigne visent plutôt à être le plus léger possible pour ne pas interférer ou pour ne pas favoriser l'apparition d'une espèce ou d'une autre, mais de laisser la place à chaque espèce de s'installer où bon lui semble et de créer justement cette diversité.
En face de nous, on a une haie. Est-ce que la haie est un élément important pour cette diversité ?
Oui, c'est un élément primordial, je dirais même. Donc on voit bien que c'est une haie qui est construite sur plusieurs niveaux différents. Hein, c'est pas du tout une haie de troène ou de thuya avec une seule espèce et qu'on aurait taillée au carré. Au contraire, on voit qu'il y a une belle diversité d'espèces. Il y a des pruneliers, il y a des noisetiers, il y a des églantiers, il y a énormément de types d'arbres différents qui sont plus grands, plus petits, qui sont plus touffus, moins touffus et qui abritent un nombre important d'espèces qui vont venir participer à la formation de cet écosystème et qui va interférer avec la vigne, avec tous les éléments vivants de la vigne.
Allez, emmène-moi à la découverte de la vigne.
Allons-y. Alors on va monter une rangée de vignes pour essayer de découvrir les types de plantes qui y poussent. Alors on voit ici une légumineuse qui est en fleur, qui est en train de pousser. Donc ça donne des jolies fleurs qui sont violettes et on peut voir tout autour de nous qu'il y a une belle diversité au niveau des couleurs également et qui est le reflet de cette biodiversité. On voit des pissenlits qui donnent une petite touche jaune, des boutons d'or également sur notre gauche et on a un peu de graminées, hein, donc l'herbe que vous retrouvez dans vos gazons mais qui n'est pas du tout dominante. Elle est intégrée dans la diversité des plantes. On voit ici un peu d'aubrome également, avec des jolis épis de couleur rouge.
Donc tout ce qu'on voit là, c'est des choses qui sont spontanées, c'est des espèces qui apparaissent d'elles-mêmes.
Voilà, exactement. On ne sème rien dans les vignes, on laisse pousser ce qui vient. C'est de cette manière-là qu'on arrive à avoir des espèces qui sont adaptées à notre sol, qui sont adaptées à notre climat.
Est-ce que ces espèces entrent en compétition avec la vigne pour tout ce qui est lumière ou sels minéraux ou eau ?
Alors, je dirais plutôt qu'elles poussent en symbiose avec la vigne. Bien sûr, il y a une certaine compétition au niveau de la nutrition, notamment au niveau de l'eau et de l'azote. Et justement, le fait de laisser les plantes, donc sans faire de fauchage par exemple, ça permet de les laisser se développer à la période actuelle, au printemps, où si tout va bien, on a encore assez d'eau. Et ensuite, elles dessèchent et elles vont recouvrir le sol pendant toute la période estivale. Donc au contraire, elles vont protéger le sol de la chaleur, elles vont protéger le sol de l'évaporation. Et ça va permettre de garder en profondeur, là où se situent les racines de la vigne, tous les éléments nécessaires pour que la vigne se développe de manière correcte.
Vous êtes bien équipé ?
Oui, ben, pour la photo d'insectes et de fleurs.
Et vous venez souvent ici ?
Oui, assez, oui. Quand c'est la période.
Vous pouvez un petit peu me décrire l'endroit où on est et pourquoi vous venez ici avec votre appareil photo ?
Ben, on est au Bollenberg et puis c'est une zone qui est particulièrement intéressante parce que c'est une pelouse sèche et on trouve plein d'espèces qui sont inféodées au milieu sec et aride et chaud.
Et qu'est-ce que vous trouvez ici comme espèce qu'on ne retrouve pas ailleurs ?
Ben, y a tout ce qui est ophrys, les ophrys frelons, les ophrys abeilles, mouches, et des orchis comme l'orchis bouc qui est très commun ici.
Aujourd'hui, on remarque que les espèces qui sont amenées à disparaître, où les populations sont de plus en plus faibles, deviennent des espèces protégées. Je sais qu'en Alsace, on a les fameuses collines du Bollenberg, où il y a plus d'orchidées qui poussent. Est-ce que là, sur ce coteau, on a aussi des espèces dites protégées ou inscrites sur une liste d'espèces à préserver ?
Non, par exemple, les orchidées poussent plutôt sur terrain calcaire, et ici, on est sur un sol granitique, donc acide, donc elles ne poussent pas du tout ici. Donc dans le secteur, ici, on n'a pas, à ma connaissance, d'espèces protégées.
On va se rapprocher de la terre juste pour être plus à l'aise. En espèce animale, donc toi qui es souvent dans la vigne, qu'est-ce que tu peux voir ?
Oui, alors il y a bien sûr plusieurs types d'animaux. Il y a les plus visibles, hein, ou du moins ceux dont on voit le travail. Par exemple, les sangliers qui viennent fouiller dans nos rangs de vignes, hein, et qui sont la preuve qu'il y a bien de la vie dans le sol, hein, s'ils viennent s'installer et se plaire dans nos vignes. Il y a aussi des lièvres qu'on observe tôt le matin, au lever du jour, quand il fait encore bien frais, qui se promènent dans les vignes. Et ensuite, il y a toute une série de micro-organismes dont certains sont visibles et qui sont des indicateurs de la vie du sol, par exemple les vers de terre qu'on peut très facilement observer. Et c'est grâce à la présence de ceux-ci, c'est pas les seuls qui sont utiles, mais c'est eux qui montrent qu'il y a également en même temps la présence d'autres animaux, des micro-organismes, hein, donc il y a des bactéries qui travaillent dans le sol, qui décomposent la matière organique, qui aèrent le sol et qui font vivre le sol tout simplement.
J'aimerais qu'on parle maintenant des différents modes de production qu'on peut mettre en œuvre, hein, pour faire pousser du raisin ici en Alsace ou en France.
Oui, alors c'est sûr qu'il y a ces dernières années beaucoup d'évolutions dans le milieu agricole et viticole. On s'oriente de plus en plus bien sûr vers des modes de culture respectueux de l'environnement. Il y a plusieurs mouvements différents qui existent, puisqu'il n'y a bien sûr pas une seule méthode de protéger l'environnement, pour protéger l'environnement, mais il y a bien sûr un ensemble de facteurs qui constituent une logique globale de culture mais aussi de vie qui permet de protéger l'environnement. Donc on a choisi plusieurs démarches différentes en parallèle qui nous intéressaient. En premier lieu, et depuis 1997, avec la création de l'association TIFLO, donc c'est de la viticulture intégrée. L'objectif est d'avoir un regard très large sur tous les travaux que nous faisons à la vigne. Et le but, c'est de mettre la vigne dans un bon environnement, dans des bonnes conditions, dans un bon écosystème, dans un bon état de santé, pour qu'on puisse derrière diminuer l'utilisation de produits chimiques. Donc parmi les produits, on a créé des législations en interdisant les produits les plus dangereux et en autorisant ceux qui étaient le moins nuisibles, donc qu'ils soient naturels ou non, hein. Ça veut dire qu'il y a des produits naturels qui ont été interdits ou restreints et des produits chimiques qui ont été autorisés. Et donc ça a permis déjà de limiter au maximum l'usage de produits Et ce qui est vraiment intéressant dans la démarche, c'est qu'elle prend en compte un système global de culture. Donc toutes les opérations qu'on fait à la vigne, que ce soit la fertilisation, l'entretien du sol, les abords des vignes avec les haies, tout est pris en compte pour que la vigne soit d'elle-même en bonne santé sans qu'on ait besoin d'intervenir. Et c'est seulement quand vraiment le risque est très élevé, quand la vigne n'arrive plus à se défendre d'elle-même, qu'on intervient en choisissant les produits les moins dangereux possibles et à des doses les plus faibles possibles. Il y a aussi l'agriculture biologique, bien sûr, qui a une vision un peu différente, c'est-à-dire qu'elle interdit tout usage de produits chimiques de synthèse et autorise l'usage de la plupart des produits naturels à quelques exceptions, donc puisqu'il y a aussi des produits naturels qui sont dangereux, bien sûr, malheureusement. Puisqu'on se rend compte en observant que malgré tout ce que les firmes de produits phytosanitaires peuvent nous dire, il y a toujours une dangerosité, que ce soit au niveau de l'utilisateur, que ce soit au niveau de l'environnement, donc au niveau de la pollution des sols, de l'eau, de l'air, il y a toujours une toxicité. La plupart des produits chimiques sont apparus dans les années 60. Ils sont apparus de manière très rapide, puisque tout simplement la culture manuelle était très difficile. Hein, donc de labourer l'intégralité des vignes à cheval, de piocher, de travailler de manière naturelle, ça demandait des efforts qui étaient immenses quand il n'y avait pas encore de mécanique. Et l'arrivée dans les années 60 des produits chimiques, des désherbants chimiques, des produits de traitement a été à l'époque perçu comme une aubaine, puisque ça facilitait énormément le travail du viticulteur, et surtout puisque les viticulteurs, comme les agriculteurs d'ailleurs, n'avaient pas du tout conscience de tous les enjeux que ces produits chimiques entraînaient, de tous les effets secondaires, de tous les effets sur l'environnement, de tous les effets sur leur santé, puisque bien sûr les fabricants de ces produits cherchaient à cacher ces aspects-là et à montrer uniquement l'aspect pratique. Donc ça a expliqué l'essor très rapide de la chimie, aussi bien en viticulture qu'en agriculture. Le fait d'observer la présence ou non, la dominance surtout de certaines espèces de plantes, nous permettent d'observer certaines caractéristiques du sol, donc des points sur lesquels on peut bien sûr interférer pour aider le sol à retrouver un équilibre, à retrouver le fonctionnement qu'on souhaite le laisser avoir. Bon, il faut bien sûr prendre plusieurs facteurs en compte, hein. Il faut une bonne connaissance de ces terroirs, de la réaction de chaque type de sol. Mais pour vous donner un exemple, on peut voir par exemple là-bas qu'il y a beaucoup de pissenlits qui poussent. Et donc ils sont le signe d'une présence très forte de matière organique qui ne se décompose pas. Donc là, on voit très bien l'intérêt d'avoir une information supplémentaire. L'analyse chimique nous indiquerait simplement qu'il y a un fort taux de matière organique. Donc on se dirait, tout va bien, on a beaucoup de matière organique, c'est très bien. Et le pissenlit nous indique que le fonctionnement n'est pas bon, que la matière organique stagne et ne se décompose pas et n'est pas mise en circulation, n'est pas utile dans le sol, dans le fonctionnement du sol. Et c'est très caractéristique des pelouses ou des prés qui ont une dominance de graminées, hein, donc d'herbes, comme on le trouve souvent dans les pelouses autour des maisons, par exemple, qui sont fauchées très souvent. Et donc on sélectionne uniquement les graminées et ils vont finir par former un tapis de racines qui va contenir toute la matière organique et qui va la séparer complètement du reste du sol. Si on creuse dans ces sols-là, on s'aperçoit très souvent qu'il y a 5 cm, les 5 premiers centimètres sont très bruns dans la couche des racines de ces graminées. Donc c'est là où la matière organique est engorgée, hein, ce que nous indique le pissenlit. Et en dessous, il n'y a plus rien. On est coupé, on est isolé, puisque ces racines isolent le reste du sol, la profondeur du sol, de ce qui se passe au-dessus. Donc on n'a plus d'air, plus d'eau, et donc plus de vie, plus de micro-organismes qui va mettre cette matière organique en route. Donc dans ce cas-là, quand on a du pissenlit, il faut scarifier l'herbe, la travailler de manière très légère, pour permettre à nouveau les échanges entre la partie superficielle du sol et le dessous. Et donc la matière organique va à nouveau s'intégrer au sol, être digérée par les micro-organismes et retrouver un fonctionnement normal.
Et donc à ce moment-là, quand le pissenlit ne poussera plus, quelle espèce poussera ? Pour donc indiquer que le turnover, hein, que le brassage s'effectue bien entre les différentes couches du sol.
Alors la meilleure indication d'un sol qui fonctionne, c'est pas une plante en particulier, mais c'est plutôt le fait que les plantes poussent de manière diverse et variée. C'est plutôt quand il y a une dominance d'une plante que ça a un caractère indicateur fort. C'est pas une plante isolée qui va indiquer que dans le mètre carré autour de cette plante, on a tel ou tel type de fonctionnement, mais c'est bien une dominance importante qui va nous indiquer quelque chose. Donc un sol équilibré se traduit tout simplement par une flore qui est équilibrée elle aussi.
Et donc là, pourquoi est-ce qu'il y a du pissenlit dans ta vigne ? Ça veut dire que ta vigne, elle est pourrie ?
Non, puisqu'on peut s'apercevoir qu'il n'est pas du tout en dominance. On en aperçoit un peu dans ce rang-là, qui est parsemé, mais qui est au milieu de plein d'autres espèces qu'on a citées tout à l'heure. Donc, c'est le signe, au contraire, d'un sol qui est équilibré. En fait.
Ouais, par exemple, ouais, là, sur le côté.
Allez, hop, on va faire un tour.
On va un petit peu.
Allez, en mouvement, en action, on y va.
Donc là, on n'a pas un travail du sol qui est adéquat et on s'aperçoit que du coup, on n'a plus qu'une espèce d'herbe puisqu'on passe souvent avec des engins pour accéder aux autres parcelles. Et donc, c'est pas à l'intérieur de la vigne qu'on travaille comme nos vignes généralement, mais c'est un passage. Et donc, le fait de passer souvent dessus avec des engins, le fait de ne pas travailler le sol, on s'aperçoit que de manière très flagrante par rapport aux rangées de vignes qui sont autour de nous, on a la présence d'une seule espèce et de pissenlit également.
Mais c'est vrai que là, la végétation est basse par rapport à ce que je vois à côté, à gauche, à droite, où il y a des graminées qui montent beaucoup plus haut. Donc c'est pas parce que ça a été tondu qu'on a une végétation basse comme celle-là.
Non, c'est parce que le sol n'a pas le même fonctionnement que dans nos parcelles de vignes. Donc avec les tassements, avec les passages réguliers, on crée un déséquilibre, donc on crée les conditions favorables uniquement pour les graminées, pour le gazon. Et donc c'est celui-ci qui prend le dessus sur toutes les autres espèces. Et on voit vraiment que ça crée une différence très importante par rapport au sol à l'intérieur de notre parcelle, qu'on respecte, qu'on laisse vivre, et où toute la diversité du coup vient s'installer et reste en place.
En fait, moi, ce que ça me renvoie, c'est que j'ai vraiment l'impression que la Terre parle. La Terre nous parle, hein, de différentes manières, qu'on n'a pas forcément appris à décrypter ou à lire, mais il y a vraiment un message qui est là, qui est sous nos yeux, où la Terre s'exprime à travers les espèces qui vont y vivre sur la surface. C'est incroyable.
Exactement, et c'est aussi un des effets pervers de la chimie. C'est qu'on a voulu nous faire croire qu'on pouvait appliquer une recette de cuisine qui s'appliquait chaque année de la même manière pour arriver à un certain résultat. Alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. On travaille avec quelque chose qui est vivant, avec la Terre, avec des plantes. Et du coup, il faut savoir observer, savoir se mettre à son service, savoir travailler dans son respect pour pouvoir faire du bon travail, hein, et pas essayer de s'imposer, de passer par-dessus la nature. Voilà.
On va continuer à se promener et puis écouter, entendre, voir et observer le message que la Terre nous livre à travers ce qui y pousse.
En fait, on est doucement par là-bas.
Là, on est au bord d'un fossé qu'on a laissé se recouvrir de végétaux, donc de haies très diverses, bien sûr, toujours. Et on se rend compte que ça apporte des espèces qui sont totalement différentes que celles qu'on retrouve à l'intérieur de la parcelle de vigne. Donc on a bien sûr des ronces qui sont souvent considérées comme nuisibles, alors qu'en fait il n'y a pas de plantes nuisibles, bien sûr, hein, chaque plante a son intérêt. Et les ronces abritent d'ailleurs de manière très importante beaucoup d'auxiliaires de la vigne, donc qui aident la vigne à se maintenir en bonne santé. On voit aussi beaucoup d'églantines, et on peut entendre, si on arrête de parler un instant, les oiseaux qui sont abrités dans ces haies. On peut apercevoir aussi plusieurs espèces d'orties différentes, hein, donc de la famille des lamiers. Là on a du lamier blanc, hein, ce qu'on appelle communément l'ortie blanche, des orties classiques, et j'en ai aperçu là-haut des lamiers jaunes également.
Et là la petite fleur blanche avec ses 5 pétales.
Alors,
en forme de cœur, regarde comme elles sont belles.
La décomposition va nécessiter de l'azote pour que les micro-organismes puissent vivre et grignoter le bois de vigne. Et ensuite, ça va relarguer de l'azote progressivement dans le sol qui pourra ensuite nourrir la vigne.
Vraiment un équilibre subtil en fait, hein, qui se crée dans la nature entre toutes les espèces animales et végétales.
Voilà, tout à fait. Je pense que c'est important de préciser que c'est un équilibre qui est très subtil. Et c'est pour ça qu'il faut, nous aussi, être très subtil dans notre manière d'intervenir pour ne pas gêner tous ces équilibres.
Tu aimes ta vigne ?
Bien sûr, oui.
On va continuer à marcher par ici.
Et on voit juste à côté des fleurs violettes également, du lierre terrestre. Juste à côté, un peu de pissenlit.
Et celle-là, là, celle qui est pourpre ?
C'est le lamier pourpre, donc de la même famille que le type de lamier qu'on observe ici.
Donc le lamier, hein, c'est la famille des lamiacées avec une tige carrée, quadrangulaire.
Voilà, exactement. Et on se régale avec ces fleurs blanches.
Alors j'imagine qu'on n'est pas les seuls à se régaler. Regarde là-bas, il y a une petite... un insecte. Hein.
Qui se promène dans les fleurs et qui va également déguster ce très bon goût mielleux.
Alors ce qui est intéressant, c'est que devant nous, il suffit d'ouvrir les yeux et on se rend compte que ça vit, il y a de la vie, quoi. C'est une télévision, là, haute définition, où en plus de l'image, on a les sensations qui vont avec et les odeurs.
Voilà, il y a également des odeurs très intéressantes qui se dégagent de toutes ces plantes. Il y a beaucoup d'activités, hein, quand on prend le temps, et c'est quelque chose qu'il faut faire, hein, quand on prend le temps d'observer. On voit que ça grouille, hein, y a partout quelque chose qui se passe, des fourmis qui travaillent, des petits moucherons qui volent, des abeilles qui butinent, etc. C'est une activité qui est très très dense quand on prend le temps de l'observer.
Et ce qui est beau, c'est cette interdépendance finalement entre tous ces êtres vivants qui sont là, qui cohabitent, une sorte de communauté, hein, d'êtres vivants là sous nos yeux, ou qui communiquent, qui vivent, qui se développent, qui avancent ensemble.
Voilà, tout à fait. On a vraiment, en observant comme ça, cette impression de symbiose, d'équilibre, d'écosystème qui est conservé.
Comment ça se fait? Là, on arrive sur un endroit, t'as un îlot, un tapis de fraises. Pourquoi est-ce qu'elles sont toutes au même endroit? Elles sont données rendez-vous?
Oui, sûrement. Alors, mais c'est vrai que la fraise se reproduit très vite, hein, quand on ne vient pas interférer. Elle se reproduit par des stolons, donc ça se répand par tâche, quand on ne l'en empêche pas. Et on voit là qu'elles sont toutes en fleurs, c'est magnifique, on voit une abeille qui vient de partir, qui était en train de butiner, beaucoup d'autres insectes aussi. Et c'est vrai que cette biodiversité est aussi un grand plaisir pour le vigneron, un plaisir visuel et puis bien sûr un plaisir gustatif aussi au moment où toutes ces fraises seront mûres. Et aussi les cerises, les pêches dans les arbres qui bordent les vignes, c'est toujours un plaisir.
Avec toujours en bruit de fond le coucou qui nous accompagne sur cette petite balade dans la vigne.
Voilà, lui aussi apprécie le beau paysage, le beau temps.
Qu'est-ce qu'il dit là ?
Ah, il dit qu'il est content tout simplement, qu'il est heureux d'être dans cette nature préservée et par ce beau temps. On a vu à l'instant également un lézard qui se promenait. C'est un terrain qui est très favorable aux lézards aussi ici, puisque on a une belle pente exposée au sud, un sol granitique qui est très chaud. Donc les lézards s'y plaisent et ils aiment bien également qu'on préserve les murets, comme on le voit en dessous de nous, qui eux aussi sont un facteur très important pour l'écosystème, hein, les murets en pierre sèche qu'on retrouve au bord des parcelles abritent également beaucoup d'espèces, hein. Les lézards sont les plus visibles, mais beaucoup d'autres espèces, notamment des serpents, etc.
Ah, c'est ce qu'on dit, quand on parle de niche écologique, hein, c'est ça, c'est à chaque espèce son habitat.
Voilà, exactement, oui. Et donc la diversité des habitats fait la diversité des animaux qui y vivront.
On inspire, on expire, on respire, on souffle.
Carbone zéro.
Une émission pour semer des idées,
planter des projets,
récolter des solutions afin que le monde et la Terre tournent plus rond.